Actu SF, les podcasts.
Bonsoir, merci de votre présence, bonsoir à tous. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler des réseaux et est-ce que les réseaux peuvent servir de nouveaux organes de démocratie ? Et pour parler de ce sujet, donc nous avons quatre invités que je vais lâchement laisser se présenter eux-mêmes, en commençant par Jeanne.
Ladies first. Alors, je suis Jeanne Debatte, je suis écrivain de science-fiction, de fantasy urbaine et un peu de fantastique. Je suis féministe, je suis engagée sur les réseaux sociaux. Et je suis également la directrice artistique très fatiguée de ce festival. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je manque de précision ou au contraire si je pars dans quelque chose de totalement délirant, ça sera sous contrôle.
Denis Bajram, je suis auteur et dessinateur de science-fiction en BD. À côté, je suis syndicaliste auteur et puis aussi développeur informatique. Donc il s'avère que là, j'ai un peu toutes mes casquettes pour venir dire des bêtises.
Mathieu Boutor, donc je suis président de l'association Hackers Voice et j'organise un des plus gros événements autour du thème du hacking qui s'appelle la nuit du hack. Et je suis grosso modo un hacker, donc tout le temps en train de bidouiller quelque chose, de changer un peu le propos d'un truc pour avancer.
Hello, I'm Christopher Priest, I'm a novelist. I wrote The Prestige and Le Monde Inverti, which are probably my two best known books in French. I'm also a European and I have 5 months to live.
Donc, une première question relativement simple. Le réseau, ma définition à moi, c'est Internet et les réseaux sociaux. Et donc la question, c'est quelles sont les possibilités en termes d'outils et en termes d'actions qui sont proposées via le réseau, finalement, pour exercer son rôle de citoyen ? Elle est compliquée, celle-là. Alors, quels outils ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des pétitions ? Des actions ?
Alors, on peut d'abord, effectivement, informer les gens. Ça commence par là. L'information, c'est pour moi la base de la démocratie. On ne peut pas prendre une décision de citoyenne éclairée si on n'est pas informé. Le problème est que, quelle information reçoit-on ?
Il y a un côté information, il y a un côté compréhension aussi de ce qui se passe sur les réseaux, de quelle information va arriver jusqu'à nous, quelle information n'ira pas jusqu'à nous, parce qu'aujourd'hui on a des réseaux qui sont tellement énormes qu'on n'a pas le temps de regarder tout ce qui se passe. Donc il y a forcément un filtrage, et ce filtrage-là, on le subit plus qu'on le comprend souvent. Et donc il y a, en dehors de l'information qu'on voit, qu'est-ce qui fait que cette information la voit et cette autre information ne la voit pas ?
Je dirais qu'il ne faut pas oublier non plus la manière dont on communique avec l'État. Avec les pouvoirs publics sur ces réseaux. Tout bêtement, en se déclarant ses impôts, mais c'est l'anecdotique. Mais aujourd'hui, peut-être plus encore aux États-Unis qu'en France, communiquer avec son élu sur Twitter, ça devient un droit démocratique. Il y a même eu des procès aux USA qui interdisaient à des sénateurs de virer les gens de leur compte Twitter. Parce que, de fait, c'est un espace public. De démocratique. Donc on voit bien que c'est un échange, recevoir l'information, mais c'est aussi maintenant le droit d'aller interroger nos élus, d'aller interroger nos administrations, alors que ce soit à titre personnel ou via les associations, via les mouvements d'opinion, via les tags collectifs, donc il y a tout un... On n'est pas seulement dans un réseau monosens, c'est toujours un peu... Ce serait un peu le citoyen qui reçoit toujours en effet l'information et qui n'agirait qu'au moment de son vote. Aujourd'hui, on est en train d'avoir des capacités à voter tous les jours, qui sont en train de se développer, parfois pour le pire, puisque n'importe quel mouvement, le pire peut se déclencher et finir par faire virer un réalisateur de chez Disney parce qu'il est un peu trop... un peu trop progressiste pour un public d'extrême droite, mais à l'inverse, il permet de faire MeToo, enfin tout genre de choses, donc d'avoir un vrai agissement qui finit par avoir des conséquences politiques ou des conséquences sociales importantes, quoi. Voilà.
Is this working? Yeah.
Yeah.
It depends what you mean by democracy. And what it actually means is unrepresentative democracy, unfiltered democracy, open, flat democracy, which has no shape. And every country in Europe, many other countries around the world, apart from Europe, are governed by representational democracies. And this means that the people as a whole elect deputies to go and form the government. And that creates a kind of political elite. And so through that political elite, a number of shades of opinion can be reflected. For instance, somebody who works on a farm, feeling very unhappy and poor because the weather's bad, and a rich financier in the city should have one vote each. But surely their interests are completely different. And therefore, the filtering method of representation has a way of controlling and producing a sort of consensus for different points of view. When you have a completely flat democracy, you get chaos. You simply just get people talking together.
La démocratie directe, donc, ce serait le chaos.
C'est des questions qui se posaient dans la Grèce antique. Hein. On dit toujours en fait qu'il est relativement facile de faire une démocratie quand, dans une seule petite cité, quand on peut réunir les 5000 citoyens sur la place commune, où en effet on a cette démocratie à ce moment-là à plat, où tout le monde peut élever la parole, les groupes se constituent, finissent par décider que X ou Y décidera. On est toujours dans l'idée que fonctionnerait le réseau comme ça, mais c'est pas vrai. Puisque de fait, les interactions ne sont pas entre tout le monde, elles sont entre des groupes, des forces, des gens qui peuvent mettre beaucoup d'argent éventuellement pour influencer. Donc en fait, est-ce que les réseaux posent cette question-là qu'on s'est déjà posée dans les républiques à l'échelle des pays ? La république dans une ville, c'était relativement simple puisqu'on pouvait réunir tout le monde. La république dans un pays, c'était déjà très complexe. Aujourd'hui, on est dans une espèce encore d'échelle supérieure où les ensembles grandissent. Et en fait, comment, en effet, je suis tout à fait d'accord, comment tous ces votes côte à côte, là, très rapides, etc., ne peuvent pas provoquer des mouvements complètement délirants. Parce qu'il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information, il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'éducation. Il faudrait pour considérer que ce vote plat ne provoque pas des je sais pas comment dire ça, des tempêtes. On est dans des effets, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'air énormes qui se créent, des cyclones qui balayent des opinions, qui emmènent des gens à gauche, à droite. On voit même des espèces dans les mêmes pays, on peut avoir une vague d'extrême droite, une vague d'extrême gauche sur des sujets à quelques années d'intervalle, selon l'émotion du moment, selon le fait divers du moment, selon le... Je crains, par exemple, que les réussites de MeToo puissent être annulées par deux, trois trucs émotionnels qui iraient dans l'autre sens et où un groupe, réactionnaire, irait s'emparer du phénomène pour essayer de regagner le terrain qui a été gagné par MeToo, s'il y en a eu de gagné, et ainsi de suite. Quoi. On voit, en fait, ce qui se passait dans cette petite foule sur la place à Athènes se passer à énorme échelle, mais de manière extrêmement plus manipulable. Parce que sur la place d'Athènes, tout le monde voyait qui est en train de parler à qui est en train d'influencer qui paye qui. Alors qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Quoi.
Ça m'a fait penser à quelque chose qui a été dit en table ronde précédemment dans la journée, sur la table ronde qui concernait Wikipédia. Wikipédia est censé fonctionner comme une démocratie plate. De facto, c'est ce qu'elle fait plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, mais l'une des contributrices les plus actives de la table ronde disait qu'en ce moment, les contributeurs lambda étaient en train de perdre du terrain contre les agences de e-réputation. J'aime pas, enfin, le mot est difficile à dire, pardon. Et qu'ils avaient beau se battre contre des choses qui étaient des robots, en fait, individuellement, ils n'arrivaient pas à maintenir le niveau de démocratie participative exigé par les fondateurs de base, enfin, par l'esprit de ce qui est soi-disant Wikipédia. Donc là, on se retrouve effectivement dans le chaos que décrit Christopher. Et c'est inquiétant. Par rapport à MeToo, je ne sais pas si on a gagné du terrain, en fait. Il y a eu une prise de conscience, oui. Mais le retour de bâton a été immédiat, et notamment en France, où le traitement médiatique de MeToo, en France, est juste pathétique et abominable. Je pense que, quelque part, nous sommes la honte du monde occidental sur ce point précis.
Il y a un aspect sur le chaos, en tout cas la cacophonie qu'on peut avoir quand tout le monde va vouloir s'exprimer en même temps, au même endroit, et ce qu'on retrouve sur ces réseaux-là. Mais il y a un aspect qui est surtout la vitesse à laquelle va se partager l'information, qui fait qu'on a une vague qui va monter très vite et qui va peut-être redescendre aussi vite qu'elle est montée. Et sur l'aspect démocratique, politique, on va avoir tendance à être sur des temps plus longs. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de voir l'impact réel que peut avoir un réseau comme Twitter, par exemple, quand il va lancer MeToo, dans le sens où ça va marcher en quelques heures, ça va monter très haut, mais c'est sur un temps qui est totalement différent du temps de la vitesse à laquelle évolue la société.
En tout cas, il y a quelque chose que j'ai vu naître avec MeToo, c'est l'utilisation de plus en plus prégnante de l'écriture inclusive, juste derrière. Alors que ça faisait des mois et des mois qu'on se battait sur ce thème-là sur les réseaux, à partir de là, les instances officielles ont commencé à utiliser l'écriture inclusive. Alors, pas de façon forcément étincelante, je veux dire, c'était simplement une des bases de l'écriture inclusive, c'est-à-dire nommer le féminin et le masculin, comme le faisait le général de Gaulle, français, française. Mais ça a l'air de rien, mais c'est la base de l'écriture inclusive. Et c'est arrivé là-dessus, à ce moment-là, à 2 mois de distance. J'ai vu arriver les premiers mails de l'éducation nationale qui comportaient de l'écriture inclusive. Juste après, notre ministre a donné une claque à tout ça, pour des raisons qui lui appartiennent. Je ne me rappelle plus lequel c'était, mais c'était sûrement pas Najat Vallaud-Belkacem, c'était l'autre. Les ministres de l'éducation nationale passent et rapassent, et ils sont également nuisibles dans l'ensemble. Donc je les oublie. Mais le fait est que il y a eu une espèce de résistance au niveau administratif qui a fait que c'est passé. Dans certains endroits. Il y a des poches d'écriture inclusive, il y en a d'autres qui... Là, mais c'est entré directement dans la vie quotidienne, on va dire.
C'est aussi un des bénéfices de cette vitesse-là et de cet impact-là qui peut arriver très rapidement, c'est que ça peut casser certaines inerties.
Voilà, parce que ça faisait des mois, voire des années qu'on gueulait. Hein.
Anything to add? No.
Je peux rajouter qu'à titre plus... Parce que là, on parle au niveau général, mais il y a des combats qui sont plus locaux, qui sont plus concentrés. Moi, je peux parler d'expériences locales pour les auteurs en général, hein, pas que les auteurs de bande dessinée, ou au niveau des organisations, on a réussi à faire bouger des dossiers verrouillés par les réseaux sociaux, par de simples campagnes. Il y a eu la campagne Paye ton auteur, qui a fait qu'au Salon du Livre de Paris, enfin, tous les auteurs ont été payés quand ils étaient en intervention, qui était une chose qui était demandée depuis des années, quoi. Et soudainement, il y a eu les organisateurs du Salon, et en partie les éditeurs derrière qui sont derrière, n'ont pas pu, sur les réseaux sociaux, défendre, de justifier le fait qu'ils ne payaient pas les auteurs. Et d'un seul coup, ils se sont trouvés dans une position à être les méchants. Et ils ont cédé, et cette année, ils ont payé. Et on voit bien que c'est étonnant, parce qu'en même temps, finalement, c'était combien de personnes qui ont participé à cette campagne? Très peu.
Oui, finalement, on devait être quoi, 5 000?
Moins que ça, je pense, même, réellement. Je dirais une centaine de comptes très actifs, 500 comptes relais ou 1 000, et puis après, des lecteurs une fois, deux fois relayés. Et pourtant, ça a été extrêmement vite, et ça a été une véritable victoire. Ça arrive à plein d'endroits aujourd'hui. Donc là, on est dans cette petite démocratie de proximité, ou démocratie syndicale, où les réseaux sociaux ont quand même là des capacités à briser des omertas
des inerties aussi.
Des inerties, voilà.
Parce que dans le cadre du festival Les Utopiales, c'était un des objectifs que nous avions, Marie Masson et moi, et que nous n'avions pas pu réaliser la première année de mon mandat. Le fait est que du coup, on a obtenu ce qu'on n'avait pas obtenu, et que donc cette année, je vous certifie que dans le festival Les Utopiales, tous les auteurs que vous voyez en table ronde sont rémunérés par le festival avec totalement le truc du CNL. On est carré. Le CNL a compris la taille de la manifestation. Il a compris que nous avions énormément d'auteurs en table ronde et que ça nécessitait un budget à cette taille-là. Et du coup, cette inertie contre laquelle on se battait depuis bien avant mon mandat d'ailleurs, et bien elle s'est débloquée d'un coup. Et là, cette année, on avait déjà réussi un peu l'année dernière. On avait partagé le budget à égalité avec tous les auteurs présents, mais ce n'était pas de la rémunération par table ronde. Là, cette année, c'est bon, le CNL a suivi, et c'est sans aucun doute à cause de mouvements de ce genre.
Donc, en fait, les réseaux permettraient un déplacement, finalement, des rapports de force ?
Ou plutôt une prise de conscience des difficultés aussi, tout simplement, parce que comprendre comment fonctionne un festival comme les Utopiales, c'est extrêmement complexe. Il n'en existe que deux au monde de cette taille, la Comic-Con à San Diego et les Utopiales. Et sous cette forme, peut-être que c'est le premier au monde. Or, au Conseil national du livre, on envisage des festivals qui sont soit sur le modèle du Salon du livre, qui est une espèce d'immense foire au bouquin. En gros, c'est une librairie dans laquelle vous avez le droit d'entrer en payant, ce qui m'a toujours un peu paru problématique, mais enfin bon, voilà. Et où parfois, les auteurs sont invités à donner leur avis sur l'amour, la mort, l'univers et le reste. Et ils répondent 42, la plupart du temps.
Y a-t-il une autre réponse ?
Non. Et de fait, un festival comme celui des Utopes, c'est juste unique. Donc ça ne rentre pas dans les cases normales du CNL. Dans les autres festivals, il y a 7, 8 auteurs en table ronde ou réunis. Alors, je ne parle pas d'Angoulême, que je ne maîtrise pas, mais Denis...
Non, pas énorme, rapport.
D'accord. Et du coup, notre budget ne permettait pas de faire face à ça. On ne pouvait pas maintenir le festival tel qu'il a toujours été en ne tenant pas compte des spécifications du CNL. Et le CNL a compris, là.
Grâce donc à Paye ton auteur et
c'est un mélange de pression mais aussi d'information en effet. C'est-à-dire que le mouvement Paye ton auteur a mis sur la place publique la problématique de manière claire. Il y a eu des gens qui ont fait des petits dessins, c'est aussi bête que ça. Il y avait là-dedans des illustrateurs. Alors dessiner le fait que faire un dessin où on voit les plantes vertes avec marqué les plantes vertes sont payées, pas les auteurs, c'est redoutablement efficace pour expliquer qu'il y a un problème quand un salon arrive à louer ses plantes vertes mais n'arrive pas à payer ses auteurs. On peut se demander si les priorités sont les bonnes. Voilà. Ce genre de petites choses, ça a été de l'information qui a été faite. On est bien dans un moment de démocratie, justement, de partage de l'information. Et à un moment, il y a une décision collective qui s'impose, qui est, j'allais presque dire morale,
mais voilà, totalement.
Qui est le juste choix à ce moment-là. Juste, voilà.
Une prise de conscience qui se fait par le réseau.
Donc là, on parle d'exemples où ça a bien fonctionné. Par contre, il y a quand même une question qui se pose. Mathieu parlait de filtrage tout à l'heure. Le mouvement Paye ton auteur, on en a entendu parler. Le mouvement MeToo, on en a entendu parler. Globalement, il peut y avoir aussi des choses qui essayent de se lancer et dont on n'entend pas parler. Parce que les réseaux, qui sont les propriétaires du réseau, comment est-ce que l'information nous arrive et comment est-ce que ça se filtre justement ?
Ça, c'est pour toi, je pense.
Oui, c'est pour toi. Mais...
Oui, je pense que c'est pour moi. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette notion d'algorithmie. Donc, grosso modo, l'algorithme, c'est un bout de code informatique qui va prendre en entrée tous les tweets qu'on va mettre sur Twitter, les messages qu'on va mettre sur Facebook et autres, et qui, de l'autre côté, va vous afficher une liste de tweets, de messages et autres. Et aujourd'hui, la plupart des personnes sont abonnées à tellement de comptes qu'on n'affiche plus exhaustivement, dans l'ordre. Il y a forcément puis un intérêt de la plateforme à le faire aussi pour vous montrer des choses que vous avez envie de voir. Donc le premier filtrage, c'est ce qu'on appelle l'effet de bulle. C'est-à-dire que, par exemple, c'est assez présent sur Facebook, où Facebook va vouloir qu'on revienne sur Facebook, donc va essayer de nous montrer des actualités, des sujets qui ont l'air de nous intéresser. Et va essayer d'être super consensuel avec ses utilisateurs. Si on a un utilisateur qui est plutôt libéral, on va avoir des articles plutôt libéraux. Si on a un utilisateur qui est plutôt à gauche, il y aura plus des articles qui vont dans son sens, parce qu'on a envie que la personne juste revienne. Et donc ça, c'est un premier niveau de filtrage. Et après, il y a d'autres niveaux sur des contenus un peu plus extrêmes où les plateformes vont filtrer plus ou moins bien suivant ce qu'elles ont envie de faire.
Et puis Facebook, il nous demande aussi de sponsoriser des informations, et à ce moment-là, il va les pousser un petit peu plus.
Et pour quelques dizaines d'euros, oui, on peut avoir des milliers de vues en plus, et donc la chance d'être beaucoup plus repris.
j'allais en parler. Il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, qui ont utilisé Facebook pour, comme outil professionnel. Alors, Facebook leur a dit « créer des pages professionnelles ». Alors, ils ont créé des pages professionnelles. Ils se sont aperçus que là, s'ils ne payaient pas, ils n'étaient pas aussi diffusés que sur leur compte privé. Donc, ils se sont rabattus sur leur compte, leur profil privé. Et là, aujourd'hui, on sent très bien que les règles sont en train de changer pour que ça ne marche plus. Donc, sur les comptes privés, on est en train de nous proposer indirectement de sponsoriser à nouveau. Donc, il y a une manipulation qui est, en effet, celle du plaisir de la personne qui vient sur Facebook, mais il y a aussi la manipulation d'essayer d'extraire le maximum d'argent des gens qui ont besoin de diffuser de l'information, qui fait partie des algorithmes aujourd'hui, quoi.
Oui, tout à fait. Facebook va avoir beaucoup de personnes qui viennent, donc il y a cette manipulation du plaisir, comme tu l'appelais. Facebook, ce n'est pas un philanthrope.
Repas gratuit, ça n'existe pas.
Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut bien voir sur tous les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes notions d'éthique qu'on peut avoir, par exemple, sur la presse papier, où on va essayer de respecter un peu plus la pluralité, on va avoir un certain nombre de mécanismes pour rééquilibrer. Sur les réseaux internet, n'importe qui se lance, n'importe qui fait ce qu'il veut, et par contre, n'importe qui fait ça dans des buts en général pécuniers, et donc fera ce qu'il a envie de faire pour gagner de l'argent.
Et là, on voit finalement arriver aussi toutes les fake news, on va arriver sur de la désinformation, ou des appels au lynchage, ou des choses comme ça, ça arrive aussi.
Alors, j'ai jamais vu aucun appel à réellement pendre quelqu'un.
La purge la semaine dernière.
J'ai vu, je ne sais pas de quoi tu parles là pour le coup, mais j'ai vu effectivement passer des moments où on disait que tel dessinateur avait des positions, on va dire, carrément d'extrême droite et parfaitement offensantes pour des gens qui étaient protégés par la loi et qu'il était interdit d'avoir des positions homophobes, sexistes, etc. Je suis désolée, ceux qui se sont livrés au lynchage, ce sont ceux qui se sont battus contre la proposition d'arrêter ça.
Mais on a aussi
qui menacent de mort, de viol.
Je pensais aussi à des choses plus anciennes. Il y a, je ne sais plus comment s'appelle l'autrice de la bande dessinée Assigné BD, Assigné Garçon,
oui,
qui a été obligée de déménager suite à des menaces et des choses comme ça.
Ça, c'est du lynchage, effectivement.
Effectivement.
Oui.
Ou même plus récemment, on a une autrice qui a arrêté sa série parce que elle s'était pris une campagne pour faire rapidement. Elle avait fait un livre sur, je pense, je l'ai pas lu, hein, qui était sur l'éveil à la sexualité, dans lequel il y avait quelques maladresses qui auraient été considérées comme du progressisme il y a 10 ans et qui aujourd'hui étaient dépassées par le sujet.
Oui, effectivement, c'est la série avec les trois gamines.
Voilà, ça va être les triplés ou les triplettes, je ne sais plus.
C'est trois copines, bon, mais effectivement.
On ne va pas discuter de savoir si en effet.
Je suis désolée, le dessin sur les fesses de Beyoncé, c'était abominable. Alors ça, désolée. Il n'y avait aucune raison au monde, même il y a 20 ans, de dire que les fesses d'une belle femme noire puissante, c'est mal.
Le propos n'est pas tout à fait là.
Alors, l'idée n'est pas de juger finalement si elle avait tort ou pas, et je garderai même mon opinion sur tout ça pour moi, parce qu'en fait, elle n'a aucun intérêt. Ce qui est étonnant, c'est que l'attaque est venue de gens plus progressistes, et à juste titre ou pas, on n'a même pas jugé ça. On est arrivé à un moment où cette personne-là, autrice, s'est retrouvée à être lâchée par son éditeur, à ne plus être publiée sur ce bouquin-là. Et c'est étonnant parce que, en fait, pour moi, de tel que j'avais été conçu comme auteur, on répondait à un livre par un livre. On trouvait qu'un livre était réac, on faisait un livre progressif pour montrer la contre-vérité. Et aujourd'hui, on a en effet une accélération du temps, on en parlait.
Où on fait une version revue et corrigée.
Voilà. Et où on demande même à l'éditeur, bon, la prochaine édition, il va falloir faire mieux. Là, aujourd'hui, il y a une accélération du temps qui est terrible. Et cette personne a peut-être fait des erreurs. Encore une fois, je n'ai pas jugé ça parce que ce serait détourner le débat. Et il n'empêche que la sanction de ces erreurs, si elles existent, est terrible, très rapide. Totalement finalement sur des terrains qui échappent à tout le monde, parce que je suis pas sûr que les personnes en face qui se sont énervées au début pensaient une seconde à ce que soit ça le résultat. Donc en fait on est en effet dans des effets de tempête, c'est-à-dire que d'un seul coup il y a un cyclone qui s'est créé autour de cette histoire-là.
Et de tempête très émotionnelle.
Et qui est totalement disproportionnée, parce que on n'était pas en train de parler d'une nazie, quoi. Enfin, on était en train de parler de maladresse, quoi. Et ça c'est les côtés un peu effrayants, parce que il y a des dégâts humains. Je pense que cette personne aujourd'hui doit être, je ne l'ai pas rencontrée, j'aimerais bien en discuter personnellement, mais elle doit inévitablement blessée par ce qui s'est passé. Je pense qu'en face il y a des gens qui ont été blessés, aussi, il n'y a pas de doute. Et tout ça, pour un livre, encore une fois, je prends probablement il y a 10-15 ans qu'on aurait posé de problème quasiment à personne. Et parce que voilà, la société a beaucoup bougé pendant ce temps-là. Et encore une fois, je ne l'ai pas vu. Donc l'idée, c'est bien de dire quelle accélération et qu'est-ce que c'est dangereux. Parce que là, on s'est fait du mal entre filles. Hein.
Alors, moi, je voudrais répondre sur un truc. C'est qu'effectivement... D'abord, j'ai fait partie de celles qui ont gueulé très très fort.
Oui, par mais rapport on va pas parler.
Laisse-moi finir, s'il te plaît. On ne s'entendait effectivement pas à ce que l'éditeur lâche l'auteur, l'autrice. Effectivement, ça me paraît impensable. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a une critique vive de quelque chose, la réponse est soit non, il n'y a pas. Oui. La première chose, c'est ça. Non, il n'y a pas. Et puis si le buzz monte et devient très fort, ça lâche. Au lieu de dire « Ah oui, mais merde, on a déconné, peut-être on pourrait faire autrement. » C'est jamais comme ça. Mais... Effectivement, c'est dans l'émotionnel, et résultat, c'est ça se drape, et tout le monde part de son côté en faisant la gueule. C'est ridicule, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Il n'y a pas très... Dans un des... Laïus, j'appelle ça comme ça, des tables rondes que j'ai écrites pour les utopiales, là, c'est-à-dire ce petit mot où je vous dis on va parler de ça, à cause d'un copier-coller mal fait, etc., il y a une phrase extrêmement maladroite qui est restée et que m'a fait remarquer une amie, une personne trans. Elle m'a dit, là, ça coince. J'ai dit, ah oui, oh merde, je suis désolée, on va le changer sur le site. Et voilà!
Oui, mais ça, c'est le conflit à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est entre peu de personnes, alors que là, d'un seul coup, je pense qu'elle, elle a découvert au moment où la vague était déjà haute. Je pense pas qu'elle ait vu les premiers messages passer, parce qu'on les voit pas, les premiers messages. Et donc, le truc monte, et puis la vague arrive, alors là, les gens réagissent tous. Enfin, moi, je ne sais pas comment je réagirais si j'avais ce genre de vague, si je me sentais dans mon droit, sans doute assez mal. Alors, l'avantage, c'est que je sais que sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Qu'il faut en effet analyser le plus froidement possible ce qui se passe et en tirer des conclusions et ne résister que si réellement il y a un enjeu là de justice. On peut dire que tout reste, on s'en fiche, qu'il faut trouver une solution pour que tout le monde soit heureux. Quoi. C'est censé être ça le but.
Mais au Canada, oui.
Ouais, le problème, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver d'outils et les outils qu'on utilise ne sont pas là pour poser le débat, pour aller sur des discussions qui vont plus aller sur le fond plutôt que sur la réaction à court terme, assez superficiel, et donc ce qui fait qu'on a une conséquence qu'on voit assez souvent, on va aller plus facilement amplifier le négatif que le positif.
Au Canada, il y a eu une polémique là, très récemment, sur une espèce d'opéra qui avait été écrit à partir des chants d'esclaves noirs au Canada. Et le fait est que le résultat des courses, c'est que les chanteurs étaient tous blancs, pratiquement. Ça a été dit au réalisateur de la pièce. Et ça a commencé. Il a barré dans un premier temps les premières réactions critiques. Il les a de plus en plus balayées, de plus en plus balayées, de plus en plus balayées, jusqu'à ce que la vague soit tellement haute qu'il ne puisse plus l'ignorer et que le spectacle soit annulé par les organisateurs. Et ça, c'est peut-être que ce qu'il faut maintenant apprendre à faire entre nous, là, au niveau de la démocratie, c'est écouter ce qui est dit par les autres. Et effectivement, ce que tu disais, prendre du recul et se dire peut-être qu'ils n'ont pas tort.
Peut-être aussi falloir qu'il y ait remettre en place de la médiation. C'est-à-dire que moi, j'ai, à titre personnel, 2-3 fois senti que ça allait mal tourner et contacté la personne à titre personnel en disant je suis en dehors de l'histoire, tes torts sont très relatifs, mais fais attention. Ils n'ont pas non plus tort de parler de ça. La balle est un peu au centre, on est dans une période où on ne sait pas. Toi, tu dois faire un pas vers eux et ils pourront faire un pas vers toi. Et on se terminera, le fameux on termine ami, etc. Et tout. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune médiation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiateur sur les réseaux sociaux. On sent bien qu'il n'y a personne qui est en train de dire attention, ça va déraper. Au contraire, on a l'impression que les algorithmes renforcent le dérapage parce que c'est génial.
Ouais, le buzz.
Bah oui.
Christopher, est-ce que vous avez donc quelque chose à apporter finalement sur cette question de l'impact de l'émotionnel sur le débat?
It's very strange sitting here as the only English speaker. It's a little bit like listening to social media in action because everyone's talking at once. And from my point of view, I have a brilliant interpreter who's telling me what they're saying, and it's always in the same voice. And so this is slightly confusing, but in a sense, it's symbolic of one of the problems with social media, which is that the format, the printed or typographical word on the computer screen, irons out all individuality. Everyone looks as if they've got the same authority. And for me, the thing I find most uncomfortable about social media is the abolition of what I call an intellectual elite. Now, this is an unpopular way of looking at it, but it's something which I think is really important and hasn't been discussed. Before there was social media, there was an intellectual elite who formed opinions. Now, these were all sorts of professionals. They were people like politicians, of course, but they were teachers and lawyers. They were people like your dentist who told you things about your teeth. There were journalists who wrote for newspapers and magazines. Now, this elite spoke for the majority. The majority read the elite. The elite was not self... It was not an elitist thing. It wasn't exclusive. It didn't stop people joining it. But it was a form of opening for people who had the wish and had the ability to see the larger picture, discuss it in isolation, and make points about it in ways which are now lost. And for me, it's very worrying that this element of expertise, of professional expertise, is now derided. We see it every day in the utterances of that President Trump, who hates the press in America. He calls it the fake news or the lock-em-up journalists. He can't deal with the fact that they think things that he can't think. And he's a typical voice of social media. He makes a point of being ordinary in a way he understands and nobody else agrees with. And he is a symptom of something which I think has changed in society and which we are only now beginning to glimpse the consequences of, which is all over the world, a little bit at a time, we're seeing extremist governments take over, or people who have extremist views in government, because they are emerging from this chaos of similar-sounding voices, which are unmediated.
Je rebondirai là-dessus. On a dit qu'en fait, Obama avait été élu par Internet, et que Trump avait été élu par Internet, mais ce qui avait changé entre-temps, c'était la composition sociologique d'Internet. C'est-à-dire l'Internet de l'élection d'Obama, c'est un Internet qui est encore majoritairement occupé par les fonctions hautes de la société, les profs, les chercheurs, les gens un peu aisés, etc. Et qu'entre-temps, pendant le mandat d'Obama, tous les Américains, jusqu'au dernier, sont entrés sur Internet. Et qu'en fait, cet outil-là, qui au départ avait servi clairement, et ça a été noté pour la conquête du pouvoir par Obama et par le progressisme américain, a servi au contraire à semer le chaos 8 ans après. On sent là vraiment la composition sociologique, le niveau d'éducation, toutes ces choses-là. On a un espace public où en effet, tout le monde maintenant a le même temps de parole, le même quart d'heure de d'autorité, comme aurait dit de Warhol, et en effet, il y a une destruction de la pensée la plus complexe au profit de l'argument de comptoir de café. Alors, est-ce qu'on doit se réjouir de la démocratisation absolue du droit à la parole ou au contraire s'en inquiéter? Là, il y a un vrai débat. Ma jeunesse, on m'a dit qu'il fallait que tout le monde ait le droit à la parole. Et maintenant que tout le monde a le droit à la parole, en effet, on a Trump au pouvoir. Donc c'est très inquiétant.
Quoi. Alors, moi, j'ai une petite modulation à faire là. Je ne suis pas certaine que les électeurs de Trump soient des abrutis. Je ne suis pas certaine que certains ne feront pas partie de l'élite. Je ne suis pas certaine que les types qui ont élu là le type au Brésil n'aient pas intérêt à le faire en tant qu'élite.
Ah, au Brésil, là, on est sur des phénomènes là clairement voilà. D'élite blanche, au contraire, qui a joué un jeu. Hein.
Mais je pense qu'il y a une forme aussi d'élite blanche qui a joué pour Trump, parce que ça n'explique pas le fracas, la destruction du Parti démocrate. Ça, c'est. S'il n'y avait que les abrutis qui avaient voté pour Trump, il n'aurait pas gagné.
J'ai pas dit abruti.
Non, mais c'est moi qui ai dit.
J'ai dit que tout le monde était arrivé. C'est-à-dire qu'on était passé d'une place gérée par des. En fait, dans les élites, à l'université, ils ont tous appris à discuter entre eux de manière polie, posée, etc. Donc leur système argumentaire fonctionnait encore. À partir du moment où tout le monde arrive, et en effet, c'est le chaos qui monte. On a bien senti ça, le chaos monter.
Tout à fait.
On regrette presque les trolls. L'époque où il y avait des mecs qui voulaient foutre le chaos, mais qui étaient sophistiqués d'une certaine manière dans la manière de vouloir détruire cette espèce de, d'Internet un peu propre qui existait. Aujourd'hui, maintenant, les trolls, c'est presque, on a presque plaisir à les voir arriver s'ils sont un peu sophistiqués, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est chacun gueule pour soi, oublie ce qu'a dit la personne d'avant dans la minute où c'est prononcé, ne lit pas les commentaires. Enfin, on est dans la disruption totale de la discussion, quoi.
Mais ça, ouais. C'est vrai, oui. Mathieu ?
Mais c'est pas les élites. Enfin, les élites vont voter pour l'un ou pour l'autre et vont essayer d'influencer, ça c'est vrai. Après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelle est la légitimité de l'information qu'on va avoir sur un système totalement plat, totalement ouvert, où n'importe qui peut s'exprimer et qui est fait d'une certaine manière où un robot peut s'exprimer presque plus facilement qu'un humain. Aujourd'hui, quelle est la légitimité de cette information ? Donc, tout à l'heure, on parlait de Trump et de fake news, et en fait, on est totalement là-dessus. Quand on parlait de Wikipédia aussi, qui a le problème avec les agences d'e-réputation, donc quelqu'un qui va apporter sa contre-vérité, ce que les Américains appellent alternative facts.
Mensonges, on peut appeler ça des mensonges directement.
Les faits alternatifs, donc qui sont une autre vision. Et à la fin, on a un certain nombre de faisceaux concordants qui vont dire que le fait alternatif paraît plus réel que la vérité, entre guillemets. Et donc, on a ce problème-là de comment les personnes sont, comment chacun, tout un chacun en tant que citoyen, dans une démocratie, on peut s'assurer d'avoir une information véritable en face et de se faire une opinion qui est basée sur des faits réels, vérifiés, et qui n'est pas juste l'opinion qu'on veut nous faire avaler juste derrière.
D'autant plus que les fake news, il n'y a pas que les Trumpistes qui en répondent.
Ah, il y en a partout.
Il y en a partout. Il y a la façon dont on traite. Par exemple, le glyphosate, quand on est écologiste, il est peut-être temps de regarder les choses de façon plus posée que dire « Waouh, le Monsanto, c'est le mal, c'est d'accord. Le glyphosate, c'est le mal, d'accord, mais pas pour les arguments que vous venez de sortir. Y a tout un effet de « Si je dis les choses de façon nuancée en étant informé scientifiquement, je risque de ne pas être écouté. »
Ou je suis considéré comme étant du côté du pouvoir.
Voilà.
C'est-à-dire que la discussion raisonnée aujourd'hui commence à être soupçonnée d'être de la manipulation.
Si on a la moindre nuance, si on n'est pas une certitude de charbonnier, l'info ne passe pas.
Le glyphosate, c'est intéressant parce que l'ensemble des herbicides et de ce qu'on met dans l'agriculture, tout ça, c'est pourri, quoi.
Oui.
On a eu un focus délirant sur le glyphosate là, d'un seul coup. Pourquoi celui-là, d'un seul coup, plus que les autres, alors qu'en effet, il faut absolument aujourd'hui retirer la chimie des champs. On est tous d'accord là-dessus, quoi. Mais c'est toute la chimie. Enfin, c'est pas que celui-là. Pourquoi celui-là ? Là, maintenant, on dénonce des députés parce qu'ils ont voté une attente sur le glyphosate, alors est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils faisaient ? Est-ce qu'ils ont lu la littérature scientifique sur le sujet, qui est en effet beaucoup plus complexe que le glyphosate, c'est mal ? Et l'ont compris, ou est-ce qu'ils ont été influencés par des lobbies, on n'en sait rien. En plus, la décision peut être bonne, mauvaise. Aujourd'hui, il y a vraiment une perte. Bon, on est dans la post-vérité, hein. Le terme a été souvent prononcé, mais
il y a une phrase que j'aime bien, c'est dégueulasse, il y a des OGM.
Ah ouais. Oui, non mais.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Totor, tu manges des OGM depuis que tu es né, et même il y avait des OGM au 19e siècle.
Et sans les OGM, on aurait toujours de gros problèmes avec le diabète.
Et voilà.
Tous les animaux qu'on consomme aujourd'hui ont été sélectionnés par l'homme et sont génétiquement modifiés par rapport à leur état naturel.
Même nos chats sont des OGM.
Oui.
Même nous sommes des OGM, quelque part.
Mais pour revenir sur ce que vous disiez, justement, sur le fait qu'il faut parler fort, qu'il faut avoir des avis très tranchés, là, je vais poser une question vraiment technique. Est-ce que finalement, quelque chose qu'un avis très tranché, c'est pas aussi plus facile à gérer pour un algorithme et à mettre en avant ? Justement, on parlait de ces bulles tout à l'heure de Facebook. On a tendance à plus croire la fake news si elle nous caresse dans le sens du poil.
Oui, je pense qu'il y a deux points là-dessus. Il y a le point à la vie tranchée, il est simple à comprendre aussi pour l'algorithme. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pourrait débattre pendant longtemps du niveau actuel de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je dirais que c'est plutôt un enfant de 5 ans. C'est-à-dire qu'on lui apprend 10 fois la même chose et à la fin, il va s'arrêter au passage piéton parce qu'il s'est fait engueuler 10 fois quand il ne s'est pas arrêté. C'est à peu près ça le niveau de la plupart des intelligences artificielles qu'on voit aujourd'hui. Donc on fait du training à outrance et puis à la fin, l'intelligence a vaguement compris.
Tu sais, les enfants de 5 ans, on ne les arrête pas.
Ouais, un peu plus vieux alors, mais pas beaucoup plus. Et après, il y a un autre fait aussi, c'est aujourd'hui, pour une plateforme, elle va vouloir mettre beaucoup d'idées sur peu de temps, c'est-à-dire que c'est le temps de cerveau disponible, on en revient là-dessus. Et aujourd'hui, donc, chacun veut son quart d'heure de gloire, mais en fait, sur les réseaux sociaux, c'est plutôt 10 secondes. C'est-à-dire qu'il faut que ça tienne dans 280 caractères, il faut que ça tienne sur le temps que la personne en face est prête à lire là-dessus. Et en fait, il faut que l'idée elle soit suffisamment percutante pour que si derrière, il y a un article qui va peut-être demander 2 minutes de lecture, et en 2 minutes de lecture, on ne peut pas aller jusqu'au bout d'un débat sur le glyphosate ou autre, mais on peut juste commencer à pousser des idées. Mais déjà, il faut avoir un effet percutant. Il faut que la personne n'ait pas scrollé juste un peu plus bas pour aller voir le tweet d'en dessous qui était plus simple, parce que ça a été lu dans le métro, parce que ça a été lu à un autre moment où la personne ne se disait pas « je vais y passer 10 minutes pour comprendre telle problématique ».
Et donc, on va passer un petit peu sur l'aspect science-fictif du truc. Finalement, qu'est-ce que vous imaginez Comment est-ce que vous imaginez que les réseaux peuvent évoluer demain pour qu'on s'en serve plus, qu'on s'en serve mieux?
If ever I saw something that governments wanted to get rid of, it's social media. And I think it's only a matter of time before it is abolished. We're already seeing signs of it. There are countries in the world which filter what you can say and what you can't say, what you can read and what you can't read. We don't even know in the West how much of it is filtered. We think it's free. I don't think it is. I think it's carefully monitored. It's all sorts of profit-making organizations are taking data from it and they're using it to influence the way people act. And people, somebody here mentioned this, perceived groups are targeted on the basis of what they say in social media. And I think, essentially, if there is a hope for the West, it is to abolish social media. And Denis mentioned, I think, democratization as a laudable aim. We're not seeing democratization. It's a form of populism. It's the populism of I think this because I have the right to think it. But I think it's not something that people have earned. If you have an opinion, you have the right to an opinion, but you have the responsibility for the consequences of that opinion.
Ça me fait penser à un roman qui date de 77, je crois, qui s'appelle Sur l'onde de choc de John Brunner.
Ah, il n'est pas cité, mais il est dans le pitch de la table ronde.
Mais c'est ce que vient de dire Christopher qui m'y fait penser. À la fin du roman, que je ne vous raconte pas, le personnage principal fout en l'air le réseau. Parce que c'est la seule solution qu'il a trouvée pour que chacun retourne à une vie démocratique et une vraie interaction citoyenne. On va le dire comme ça. Personnellement, je ne pense pas que c'est ça qui va se passer. Je pense que Christopher a raison. On va juste se retrouver dans un endroit plus étroit, plus surveillé, plus carcéral. Le rêve de Neil Stephenson dans Le Samouraï virtuel ne va pas se réaliser, celui du monde virtuel où chacun aurait pu se réaliser. D'ailleurs, Neil Stephenson considère qu'il rate aussi. Et puis, de toute façon, on en a pour quoi 50 ans de civilisation devant nous. Le réseau tombera avant l'humanité.
Parfois, j'ai l'impression qu'en effet, ce n'est pas la démocratie qu'on nourrit sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas la socialité entre les gens, c'est le fait de se numériser soi-même, mon moi. étalé sur les réseaux sociaux et que quelque part, en effet, on est, et c'est pour rebondir sur ton histoire de fin de civilisation, en train tous d'essayer vainement, au dernier moment, de s'encrypter dans le numérique comme ça, moi je suis ça et je resterai comme ça, dans une dernière étape, avant en effet de s'anéantir à force d'être con. Ce n'est pour moi pas du tout une étape démocratique, c'est une étape du moi-je absolu, où chaque moi-je est en concurrence pour exister une dernière fois comme ça sur ces réseaux numériques, avec une sorte d'inconscient collectif qu'on serait en train de ne pouvoir plus qu'exister que par là.
Tu sais, quand même, venant de la part de créateurs, le moi-je...
Oui, on est champion du monde. Hein.
Voilà. Ouais. Si on devait faire fonctionner un train avec de l'ego d'auteur, ça marcherait, on irait sur Neptune. Hein.
Mais c'est pas pour rien que j'aurais voulu être un artiste. Hein.
Mathieu.
En dehors de cet ego d'artiste, il y avait un truc très, très intéressant, c'est ce que disait Christopher, c'est qu'il n'était pas convaincu que les réseaux sociaux soient gratuits. Et moi, je suis convaincu que c'est... ça a un coût énorme sur notre intelligence collective et sur notre capacité à évoluer en tant que société. Et en fait, l'image un peu négative sur le futur que j'en ai aujourd'hui, et tant mieux si de cette image-là, on arrive à faire quelque chose de mieux, mais c'est que, grosso modo, le pouvoir politique n'arrivera pas à réguler les réseaux, donc ça va être le contraire qui va se passer, donc ça va être celui qui contrôle les réseaux qui contrôlera le gouvernement. C'est sûrement ça qui va se passer. Derrière, on se retrouve avec des systèmes pas si loin de chez nous, enfin de l'autre côté de la planète, en Chine, où on met en place un social credit, c'est-à-dire qu'on est dans le télécran de 1984, où le gouvernement regarde tout ce qui se passe chez tous les citoyens, mais de manière volontaire. C'est-à-dire que chacun, parce qu'il veut être présent sur ses réseaux, parce qu'il y a... Il y a tout un aspect qu'on n'a pas parlé de gamification, où on a ce côté-là, j'ai une certaine forme de récompense qui marche en psychologie cognitive et qui fait que je reviens et que je vais faire des actions dans un certain sens qui ne seraient pas forcément ce que j'aurais voulu faire, mais juste pour avoir cette endomorphine de la récompense.
Il y a un épisode
et donc,
de
en fait, on va sur la servitude un peu volontaire, où on fonce dedans de manière volontaire. On a toujours cette image du régime un peu autoritaire qui va nous mettre dans ce genre de situation. Mais si on regarde ce qui se passe en Chine, les gens vont utiliser Weibo, qui est le Twitter chinois, et derrière, sont rentrés dedans et vont se retrouver fliqués pour, à ne pas pouvoir voyager dans le pays s'ils ont dit des mauvaises choses sur Weibo.
Ils s'autodénoncent aussi. Hein.
Il y a ce côté d'autodénonciation aussi.
Il y a de la délation à l'intérieur,
dépend,
si je me rappelle bien.
Qui dépend beaucoup des sociétés. Par exemple, la Corée est un autre exemple où la technologie va être utilisée pour l'autodénonciation. On va avoir des personnes qui vont mettre une caméra en bas de chez elles pour regarder qui a grillé le stop et qui vont être payées 10 euros par dénonciation par la police locale.
Il y a un épisode de Black Mirror aussi où les gens essayent de gonfler en permanence leur cote. Bon, on arrive à peu près à la fin du temps déduit, donc est-ce qu'il y a des questions ? Par là-bas. Bon, on va attendre que le micro fonctionne.
Alors, un micro qui marche. Un micro qui marche pour qu'on puisse dire sur Facebook ce qu'a demandé cette jeune fille.
Oui.
Ou, attendez, je vois. Oui.
Voilà un micro qui marche.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette super table ronde, enfin, c'était très intéressant. Moi j'avais une petite question, j'espère être plus optimiste que vous, je me dis qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, je pense à Framasoft, qui développe une culture du web libre et qui arriverait à sortir des réseaux de surveillance. Et j'espère que, enfin, ma remarque c'était, pensez-vous pas que ça, on peut avoir aussi ce retournement de situation, ce fait que les gens prennent conscience qu'ils sont surveillés et qu'ils vont vers d'autres réseaux pour sortir de ce jeu-là.
Alors aujourd'hui, je pense que oui, sur cet aspect de surveillance, il y a quand même une prise de conscience. Et par exemple, donc sur la partie libre, donc utiliser des outils que chacun peut maîtriser, ça c'est un sujet qui est beaucoup plus
qui est aujourd'hui plus complexe parce que 90% des utilisateurs en fait n'ont pas forcément le temps ou les compétences techniques pour entrer là-dedans. Voilà, et donc l'envie, si c'était simple, ça serait plus adopté.
Et puis donc tout ça, le monde c'est, est sur
c'est,
Facebook.
Ça, c'est une lame de fond qui avance. Mais, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un effet d'inertie sur la masse d'utilisateurs qui est juste énorme. Maintenant, si on regarde sur cet aspect surveillance, on regarde Apple, qui était un des plus gros collaborateurs de la NSA, avant d'être dénoncé par Snowden et d'avoir tout cet effet sur ces dénonciations, aujourd'hui est un des premiers à pousser dans la conception de ces téléphones ou autres à empêcher certaines activités de surveillance et à même contrer un peu les modèles sur les dernières versions qui sont sorties, contrer un peu le modèle de temps de cerveau des applications pour redonner un rapport d'utilisation de quelles sont les applications qui nous ont pris notre semaine. Donc oui, il y a des mouvements positifs aussi, c'est toujours une action-réaction, et donc il y a une action dans un sens, on a vu le côté négatif qu'il peut y avoir sur cette action, et il y a forcément des réactions de l'autre côté, donc bien sûr que tout n'est pas perdu, bien au contraire.
Je vais me permettre de rebondir aussi sur votre question. On est capable de faire ça aujourd'hui en Europe parce qu'on a la neutralité du net. Dans un pays où finalement on a autant d'internet qu'on peut se le payer et que si on ne peut pas se le payer, ben on n'a pas. À ce moment-là, on n'est plus capable de faire ce truc. Donc c'est là que c'est le genre de choses où il faut être conscient de l'importance du principe de neutralité du net.
Et d'une régulation étatique, hein, parce qu'il y a ça qui est imposé par les États européens, mais aussi le GDPR récemment, qui a quand même sacrément changé la donne et extrêmement inquiété beaucoup de plateformes, parce que de fait, s'ils se font prendre la main dans le sac aujourd'hui, ce sera une autre histoire, même si c'est pas assez partiel, etc. On voit bien qu'il y a une régulation. Finalement, la régulation de nos démocraties devrait peut-être passer aussi à revenir à nos pays, à nos organisations, pour réguler ces réseaux sociaux-là d'une manière ou d'une autre, comme on le fait justement là, très justement pour la GDPR ou pour la neutralité.
Mais quoi qu'il en soit, on a tout intérêt à revenir à l'État-nation, enfin, j'entends par là la politique, parce que de plus en plus, on est géré par les multinationales, et c'est que ça soit au niveau réseau, au niveau réel. Physique.
Et pour répondre à votre question sur ce cas-là, moi j'ai été frappé, j'étais dans les gens qui ont contribué à du code dans Linux, enfin dans des applications libres, etc. Quand je vois qu'aujourd'hui la plus grosse plateforme Linux c'est Android, qui a été complètement capturée
Google,
par Google, et qui finit par se faire condamner par l'Europe en ce moment même pour des pratiques anticoncurrentielles faites avec des choses que nous on a développées gratuitement, je crains que le capitalisme ait toujours une capacité incroyable à récupérer la révolte et le rock. Hein. Voilà. Donc, ce sera toujours une négociation. Penser qu'un modèle pourrait renverser l'autre, je crains qu'il faille se battre jour après jour, en effet, lancer Framasoft, mais quand Framasoft aura été récupéré, passer à autre chose, etc. C'est un combat permanent du citoyen de résister à ceux qui veulent confisquer son pouvoir ou son droit. Voilà.
Vous avez parlé de la démocratie, mais la censure est sur les réseaux aussi. Ici.
Ah, ok.
Et je vous rappelle que dans le Parlement européen, il est en cours la préparation de la nouvelle directive des droits des auteurs. Et cette directive a dans son propos l'introduction de censures automatiques. Et ça va se voter dans le Parlement les prochains mois. Et il y aura une liste nègre de passes web qui ne se pourront pas. Et en lancer une guerre. Et toute personne qui attend la publication d'un lien à cette liste, la publication sera censurée automatiquement.
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir complètement saisi la question, je suis désolée.
C'est la question de la censure qui est en train de se mettre en place, de fait, hein. un peu partout. Est-ce que la censure c'est mal si c'est pour en France on censure aujourd'hui les discours antisémites hein, de manière claire et nette hein. Moi à titre personnel j'ai toujours été gêné par ça mais j'ai pas de meilleure solution. C'est vrai qu'on aurait, on rêverait d'un monde où la liberté de parole serait totale et où on saurait tous argumenter et se défendre. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de voir des croix nazies dans mes rues parce qu'il y aura toujours des débiles pour aller défendre ça? Je ne sais pas, quoi. Donc, enfin, je sais que j'ai pas envie. Donc voilà, l'exercice de la censure, c'est pas la censure en elle-même qui est un problème, c'est bien la manière dont elle va s'exercer. Et ça, ce sera important que nous, en tant que citoyens, encore une fois, là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se battent sur Facebook pour que la nudité, quelque chose de beaucoup plus légitime en France qu'aux USA, ne soit plus un problème. Et il faut mener ce combat sur Facebook pour dire, mais vous ne nous interdirez pas le corps humain.
Voilà. Ce qui est important sur la censure aujourd'hui, ça pointe le bout de son nez sur éventuellement des règlements européens ou dans d'autres pays. Mais en fait, aujourd'hui, la censure, elle est déjà là. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des multinationales qui ont un pouvoir énorme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver sur Twitter et dire certaines choses qui peuvent être totalement OK avec la loi américaine. Par exemple, en France, on censure le discours antisémite. Aux États-Unis, c'est couvert par la liberté d'expression. Par contre, vous venez sur Twitter, vous ne le faites pas. Vous avez un autre réseau social à côté qui s'appelle Gab, qui s'est spécialisé là-dessus. Mais Twitter, les intérêts financiers de Twitter sont supérieurs à ce que ça apporterait certaines parties de la liberté d'expression, donc ils vont censurer Facebook, censurer la nudité, parce qu'aujourd'hui Facebook estime que c'est mieux d'avoir plus d'utilisateurs et de censurer la nudité que d'en frustrer quelques autres.
Mais est-ce qu'on peut interdire à une société privée de défendre ses intérêts économiques de cette façon-là? Facebook, c'est utilisé comme un espace public, est-ce que c'en est un?
Je pense que ça sera le mot de la fin, mais en fait, le problème, c'est pas forcément que ça soit une société privée. Le problème, c'est que ce soit des sociétés privées en situation de quasi-monopole. Et donc, on a peu de sociétés privées, peu d'alternatives. Et donc, s'il y en a une qui va dans une direction, on aura très peu de capacité à aller dans une autre direction.
Il est clair que les lois antitrust actuelles ne sont pas du tout adaptées au trust de la place démocratique qui est fait par pas mal de gens. Voilà.
Je crois que nous sommes arrivés au bout du temps réglementaire. Merci à tous pour votre présence. Merci aux invités. Un grand merci aux traducteurs.